Voilà. Alors, je relis Colossiens chapitre 2, verset 16, « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. » Le corps, c'est aussi, c'est traduit aussi dans d'autres versions par la réalité. La réalité, elle est en Christ. Nous ne sommes plus contraints à respecter telle fête, telle autre fête, ou à ne pas les respecter, parce que la réalité, elle est en Christ. Et dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre des choses à venir. La réalité, elle est en Christ. Alors, une fois qu'on a dit ça, existe-t-il d'autres fêtes? Alors aujourd'hui, dans le monde, on va dire moderne, que l'on connaît, des fêtes, il en existe plein. La première est probablement une bonne fête, c'est l'anniversaire. On est habitué, dès notre jeune âge, dès notre première année, en fin de compte, à observer notre anniversaire. On n'oublie pas. Les parents, on est tellement contents que nos enfants ont un an. Surtout, on prépare un gâteau, on met une bougie. Si l'enfant a un an, bon, il commence à marcher, mais enfin, bon, pas tous les enfants en tout cas. On lui apprend à souffler la bougie. Et surtout, on n'oublie pas de lui faire un cadeau. Mais c'est pas la première année seulement. C'est les années qui suivent. Et les enfants nous le rappellent, hein, bien souvent. Papa, maman, est-ce que je peux inviter mon petit copain à mon anniversaire? Ma petite copine? Et pendant des années et des années, on apporte des cadeaux. Alors il y a un moment, il faut un petit peu s'arrêter, hein. On a une petite fille qui a 10 ans, on lui a fait un cadeau cette année, mais on lui a déjà fait comprendre que à partir de 10 ans, c'est plus trop les cadeaux maintenant qui comptent. On verra, peut-être on donnera un petit billet, c'est ce qu'on a fait en tout cas aux autres. Mais en tout cas, on n'oublie pas l'anniversaire. Et puis quand on est adulte, on n'oublie pas non plus nos anniversaires. Nos enfants nous le rappellent. Notre épouse, notre conjoint, en tout cas, nous rappelle. Et puis, quand on se regarde dans la glace, on s'en souvient aussi. On voit que les années passent et que nous changeons. Alors surtout si on regarde les photos d'il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, hein, les photos de mariage, on était beaux quand on s'est mariés, mon épouse et moi, maintenant on a changé. Il y a de bonnes traditions. Il y a de bonnes traditions. La fête des mères est une bonne tradition.
La fête des pères aussi.
La fête des pères aussi. Je vais y venir. Hein, la fête des pères. Mais la fête des mères est... Alors, j'ai voulu me renseigner quand même sur la fête des mères. Il paraît qu'Astérix en parlait déjà. Alors, ce n'est pas mon livre de chevet, Astérix. Mais Astérix en parlait déjà. César en parlait, les Romains en parlaient, je veux dire, les Grecs en parlaient. Et c'est devenu plutôt commercial, on va dire, à partir il y a à peu près 100 ans, aux États-Unis et en France, en 1950, à peu près, la fête des mères. Au point que c'est même, je crois, un décret qui a été institué en France, comme quoi on n'oublie pas la fête des mères. Alors, suivant que l'on tombe le jour de la Pentecôte ou pas, la fête des mères a lieu le premier dimanche du mois de juin. Et la fête des pères a lieu le troisième dimanche de la fête du mois de juin. Et puis, on peut penser, alors c'est pas simplement en France, hein, c'est dans plusieurs pays européens, des dates différentes parfois, mais il y a aussi la fête du 14 février, qui n'a pas souhaité, qui n'est pas allé acheter un bouquet de fleurs au 14 février pour le donner à son épouse, à son conjoint, ou à sa fiancée, ou à une jeune fille. C'est une bonne tradition. Pas contre, je ne suis pas foncièrement contre. 25 décembre, on parle de la naissance de Christ. On sait très bien que Christ n'est pas né le 25 décembre. Je crois qu'il est né, on pense plutôt au printemps, hein, quelque chose comme ça. Mais bon, c'est une tradition. On fête Noël, et nous-mêmes, nous le fêtons, Noël, le 25 décembre. Bon, bien sûr, maintenant, on fête plutôt le Père Noël, le 25 décembre. En tout cas, les enfants, c'est ce qu'ils attendent. Il n'y a pas que les enfants, d'ailleurs, qui attendent le 25 décembre, le Père Noël. Et puis, il y a Pâques, bien sûr. Et puis, il y a le 21 juin. Alors, 21 juin, c'est aujourd'hui. Et on sait que, depuis quelque temps, c'est la fête de la musique, le 21 juin. Depuis maintenant quelques années, et ça s'est mis un petit peu dans chaque pays. Et aujourd'hui, ben, c'est un dimanche, et le 21 juin, c'est aussi la fête des pères. Alors, les pères ne sont pas très nombreux ce matin. Il y a peut-être des futurs pères. En tout cas, il y a beaucoup de mères, en tout cas, ou de personnes qui deviendront mères, mais le message est aussi pour vous ce matin. Mais lorsque le pasteur Nicolas m'a demandé, il y a un petit moment déjà, hein, est-ce que tu peux apporter la méditation le 21? J'ai dit oui, comme d'habitude, je dis, il n'y a pas de problème. Moi, je pensais qu'on allait toujours continuer à être confinés, et puis à faire comme on faisait déjà depuis quelques mois. Et puis bon, c'est la reprise ce matin, donc on le fait ici. Mais lorsque j'ai regardé le calendrier, puis j'ai vu que le 21 juin, c'est la fête des pères. Alors le message était tout ouvert. Je l'attendais, bon, je vais le dire, je l'attendais depuis un petit moment déjà. Un jour ou l'autre, bon, ben, ça tombera que c'est le jour de la fête des pères que j'aurai l'occasion d'apporter la méditation. Mais je savais que si ce jour arrivait, je connaissais déjà mon message. Pas en détail, mais en tout cas, dans le thème, en tout cas. Et donc, je voudrais m'adresser en premier au Père, au futur Père, mais aussi aux mères et aux futures mères qui seront là aussi pour aider, pour encourager et le Père et les enfants à voir ce que l'Écriture nous dit. Parce que c'est ça qui est important. C'est ce que l'Écriture nous dit. C'est pas ce qu'on pense qui est important. Vous savez, l'origine de la fête des Pères, elle date de, à peu près 1950, 52 à peu près, en France. J'ai été surpris cette semaine, je me suis renseigné pour ça, à l'origine de la fête. C'est un homme, je ne me souviens plus de son nom, un fabricant de briquets. Et il avait du mal à vendre ses briquets au mois de juin. Et il a décidé, il a décrété, qu'en fin de compte, chaque père devait avoir un briquet. Alors, les plus anciens, peut-être vous vous souvenez de vos parents qui avaient un briquet dans la poche, parce que les gens fumaient beaucoup à cette époque-là. Et c'était donc presque une tradition que d'offrir à son père, à ses parents, à son père tout au moins, un briquet. Bien sûr, maintenant, il existe des briquets jetables et tout qui coûtent trois fois rien, mais à cette époque-là, il n'y en avait pas. Et donc, les ventes ont augmenté cette année-là, à cette époque-là, donc il y a quand même 70 ans de cela. Ça a augmenté énormément. Et la majorité des fêtes dont on parle là, ce sont des fêtes commerciales. Ni plus ni moins que commerciales. Alors, il y a de bonnes fêtes, il y a de mauvaises fêtes, sans doute. En tout cas, il y a une tradition qui existe et qui est là. Mais qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Eh bien, elle nous dit beaucoup de choses. Et le verset que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est Éphésiens chapitre 6 et le verset 4. Or, c'est un verset que vous connaissez probablement, vous avez déjà lu en tout cas, qui nous dit « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Alors, je voudrais pas, on le retrouve un petit peu différemment, mais je crois dans Colossiens chapitre 3 et au verset 21, il est dit « Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Alors, je voudrais pas ranimer ce matin, peut-être parmi vous, souvenirs. En tout cas, des mauvais souvenirs. Parfois, certains ont eu un bon père. Moi, en ce qui me concerne, le souvenir que j'en ai de mon père, c'est que j'ai eu un bon père. Je ne le vois pas s'irriter. Je n'ai pas le souvenir. Je n'ai pas le souvenir de quelqu'un qui se mettait en colère. Je n'ai pas le souvenir de quelqu'un qui était absent. C'était, il partait le matin de bonne heure pour travailler, il rentrait le soir assez tard, mais quand ma mère me disait, mais attention, si vous faites des bêtises, on était mon frère et moi, je vais le dire à papa, et quand il va rentrer ce soir, vous allez vous faire respecter. Alors on avait un peu peur, on faisait attention. Mais je n'ai pas, dans mes souvenirs en tout cas, de mauvais souvenirs. J'avais en quelque sorte un bon père. Parfois, certains ont eu des pères autoritaires. Dernièrement, il y a un an et demi de ça, quelqu'un qui n'est pas de l'église ici, donc qui est d'une autre église, me disait, mon père, qu'est-ce qu'il était autoritaire. Il nous a fait subir des positions qui étaient difficiles. Et pourtant, son père était chrétien. Je ne sais pas s'il existe encore aujourd'hui, s'il est reparti auprès du Seigneur, mais il avait un mauvais souvenir de son père. Et quand je l'entendais parler, quand je parlais avec lui, effectivement, pas toujours facile. Puis il y en a certains qui ont eu des parents qui ont été un père qui était absent, ni plus ni moins absent. Absent en partie, parce que le travail faisant ceci, il partait tôt le matin, ils rentraient tard le soir, certains partaient, ils allaient en mission, à droite, à gauche, et le travail les prenait tellement qu'en fin de compte, ils n'ont pas vu élever, ils n'ont pas vu leurs enfants grandir. Et puis, il y en a malheureusement qui ont eu leur père qui est parti totalement, soit par le décès, mais des fois, il n'y a pas que le décès. Des pères qui ont abandonné leur famille, qui ont abandonné non seulement leur épouse, mais qui ont aussi abandonné les enfants. Ça existe. Et peut-être que parmi vous, il en a été ainsi. Alors, que dit la parole? Que dit la parole de Dieu? Dans Proverbes, au chapitre 1er et au verset 8, je crois. Proverbe, c'est à côté. Au verset 8, il nous est dit « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. » Une mère, j'ai déjà dit, n'est pas un père. Un père n'est pas une mère. Je ne vous apprends rien, vous vous en rendez compte vous-même. Au début du confinement, j'avais fait une petite vidéo en notant que Ésaïe, chapitre 66, verset 13, que le Seigneur était celui qui consolait, l'Éternel était celui qui consolait comme une mère console son enfant. C'est vrai que la particularité des mamans, c'est la consolation. Est-ce que les mamans qui ont eu des enfants, qui ont eu des petits-enfants, vous n'avez pas consolé vos enfants quand ils tombaient? D'ailleurs, l'enfant, naturellement, il vient vers sa maman. Quand un enfant fait une... comment vous savez, quand il dort et puis qu'il fait un cauchemar, qui est-ce qu'il appelle? Maman, maman! Et qui est-ce qui se lève? Maman, maman! Le papa, il dort à côté. Ou il fait semblant. Ça donne pas longtemps. Mais l'enfant le sait. Et on dit souvent que quand les adultes, les enfants adultes, se retrouvent sur le champ de bataille, combien ont, à travers l'épreuve, à travers la difficulté, à travers la souffrance même, n'ont pas appelé en premier leur maman? Presque naturellement. Presque naturellement. La maman, elle console. Et le papa? Ben, le papa, c'est l'autorité. Il montre l'autorité. On ne doit pas faire n'importe quoi dans le foyer, dans la maison. On a peur de son père. Le père qui châtie, le père qui, l'Écriture nous dit, en Éphésiens chapitre 6, qui corrige aussi l'enfant. Dans Ézéchiel chapitre 18, alors si vous devez noter quelque chose, notez Ézéchiel chapitre 18, vous le relirez à la maison quand vous aurez l'occasion. Ézéchiel chapitre 18. Tout le chapitre 18. Les fautes d'un fils ne sont pas les fautes d'un père. Si un enfant a mal tourné, ce n'est pas à cause du père. Ça ne doit pas être à cause du père. Vous savez, c'est ce que la société nous a dit depuis maintenant quelques années. Si le fils boit, c'est pas de sa faute, c'est la faute de son père. Il buvait. Si le fils se met en colère, c'est pas de sa faute. Ses parents se mettaient en colère, son père se mettait en colère. Et on, petit à petit, on essaye comment d'emmener les enfants, en fin de compte, ce ne sont pas de leur faute. Leur péché, ce n'est pas de leur faute. C'est de la faute de leur père. Ézéchiel, chapitre 18, nous dit tout le contraire. Alors, qui a raison? Le monde ou la parole de Dieu? Au verset 20 de Ézéchiel, je vais juste lire ce verset-là. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Alors bien sûr, en analysant, c'est très bien que si le père, par exemple, boit, le fils aura une tendance à boire. Si il y a quelque chose de génétique qui existe là. Mais il n'y a pas la responsabilité qui est donnée au père si l'enfant se détourne du Seigneur. Et si un de vos enfants se détourne du Seigneur, ce n'est pas de la faute des parents, ou de la faute des parents qui respectent le Seigneur, qui aiment le Seigneur. Éphésiens, donc, chapitre 6, je voudrais qu'on regarde ça quand même. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Alors, il y a trois points. Je pourrais en trouver d'autres, hein, bien sûr. Mais il y a trois points que je voudrais partager avec vous ce matin. Je regarde l'heure qu'il est, ça va. Le premier point, et vous, pères. Il n'est pas dit, et vous, parents. Il n'est pas dit, et vous, mères. Ou vous, pères et mères. Il est dit, et vous, pères. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a à peu près deux ans ça, je partageais avec vous Éphésiens chapitre 5 en ce qui concerne les devoirs domestiques. Je vous parlais, il est dit, femmes, soyez soumises à vos maris, Il est dit en ce qui concerne les maris, aimez vos femmes, et on avait partagé ce texte-là, et on avait vu que l'apôtre Paul, en tout cas, dans ce qu'on appelle les devoirs domestiques, rappelait Genèse chapitre 2, et il rappelait aussi la parole de Jésus, du Seigneur, dans Matthieu chapitre 19, où il était dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et donc on avait expliqué un petit peu tout cela. Mais quand on continue à lire, au chapitre 6, il est parlé des enfants. Alors, la dernière fois on n'en avait pas parlé, aujourd'hui on n'en parle pas non plus. Mais bon, peut-être qu'on en parlera quand les enfants seront à l'école du dimanche, on ne sait pas. Au verset 4, il est parlé de pères, et ensuite il est parlé des serviteurs, il est parlé aussi des maîtres, c'est-à-dire des salariés, hein, de ceux qui dirigent, en fin de compte, qui dirigent des gens, en fin de compte. Mais il n'est pas question de mère. Il est question de père. Ah, ça ne veut pas dire, je vous l'ai lu tout à l'heure dans comme quoi une maman doit aussi enseigner son enfant. Mais l'Écriture nous rappelle le rôle important que doit avoir le père. C'est un rôle essentiel. Et quand on lit Éphésiens chapitre 6, on voit qu'il est de corriger et d'instruire. Il n'est pas dit qu'il faut se reposer totalement sur son épouse pour l'instruction. Mais il est important aussi de donner l'instruction. On ne doit pas abandonner ses prérogatives. Et d'ailleurs, si on lit l'Ancien Testament, on le sait. Rappelez-vous, Élie, le juge, pas confondre avec Élie, le prophète. Il a dit Élie, le juge, dans 2 Samuel, au chapitre 2 et au verset 4. Qu'est-ce que le Seigneur lui reproche à Élie, le juge ? Il est resté juge pendant 40 ans. Le Seigneur lui reproche de ne pas avoir dirigé sa propre famille, à ne pas avoir dirigé ses enfants, Ophni et Phiné. Il leur reproche. Et le Seigneur, vous savez, il a une... On dit des fois que le Seigneur a de la patience. Oui, il a de la patience. Il y a un moment, je crois que le Seigneur donne en tout cas un jugement. Et il a averti, en tout cas, il est même dit que c'est un ange du Seigneur, ou un homme du Seigneur, qui est venu le voir et qui lui a dit le comportement, le mauvais comportement qu'il avait à l'égard de ses enfants. Vous savez, ses enfants, ils faisaient le sacrifice. Et alors, ils prenaient dans les commandes. Les bêtes qui étaient sacrifiées, ils prenaient les meilleurs morceaux, tout de suite pour eux. Alors que l'Éternel avait dit, vous ne prendrez pas les prémices de ces viandes, vous les garderez pour l'Éternel. Il faisait tout l'inverse. Il prenait même les femmes qui se trouvaient autour de la tente d'assignation. Ils n'en avaient que faire. Ils vivaient, alors je ne vous ai pas, si je n'ai pas le temps de vous lire les versets, mais vous le lirez dans 1 Samuel chapitre 2, ils ont dit que ces enfants étaient pervers par leur comportement. Et le Seigneur reprend Élie. Et au chapitre 4, lorsqu'il y a eu une guerre entre Israël et les Philistins, Israël a déjà été battu, ils ont, je crois, perdu 4000 personnes. Et ensuite, les enfants, Ophni et Phiné, ont pris le tabernacle, je crois, et ils sont allés voir les Israélites qui étaient là. Il y a eu une deuxième bataille avec les Philistins, et il y a eu 30 000 personnes qui ont été décimées ce jour-là. Israël a perdu une bataille. Cela. Et non seulement cela, puisque le Seigneur avait averti, les deux enfants sont morts. Ophni et Phinéas. Et quand on est venu auprès d'Élie pour lui dire, voilà, tes enfants sont morts, le tabernacle a été pris. Élie, qui avait 98 ans, est tombé à la renverse. Et l'Écriture nous dit que, en tombant à la renverse, sa tête a heurté, je crois, une pierre, et il est mort aussitôt. Voilà la condamnation que le Seigneur lui venait. Parce qu'il avait été absent dans l'instruction qu'il devait donner à ses enfants. Donc, ce sont des passages qui sont importants, qui nous rappellent en tout cas cette importance. Alors, regardons il reste quelques minutes, regardons le deuxième et le troisième point. Deuxième et le troisième point, ce sont des verbes. N'irritez pas et élevez. Alors, ce sont des verbes qui sont à l'impératif. Donc, on ne discute pas. L'impératif, on ne discute pas. Et quand le Seigneur nous le donne, parce que nous l'écrit, comme ici, via l'apôtre Paul, on ne discute pas. Et la première remarque, c'est que le premier point, c'est à la forme négative. Ah ça, la forme négative, on n'aime pas beaucoup. N'est-ce pas? Moi, je préfère la forme affirmative que la forme négative. Parce que le négatif, on n'a pas le droit de franchir. Les petits-enfants ont dit « fais pas ci, fais pas ça ». C'est la forme négative. Serge n'est pas là, il sera peut-être là au deuxième culte. Mais quand il est moniteur de l'école, quand il traverse une ville et qu'il dit à ses élèves « vous ne franchissez pas les 50 km/h », c'est pas la peine de rouler à 70. C'est tout à fait évident. Le négatif, nous n'aimons pas. Et c'est bien pour ça que parfois, le père provoque l'irritation. C'est-à-dire qu'il provoque la colère chez quelqu'un d'autre. Alors, pendant les semaines là, qui sont passées, je me suis posé la question, mais comment on peut irriter son enfant? Parce que c'est ça. Père, n'irritez pas vos enfants. Comment on peut les irriter? Alors, j'ai noté quelques points. On peut les irriter en les abaissant. Vous savez, le monde aujourd'hui, le monde moderne aujourd'hui, rabaisse l'enfant dès son départ. À l'école, il est rabaissé. Je sais qu'il y a plusieurs qui sont professeurs, maîtres d'école, chez nous, enfin dans notre église. Mais quand moi, on me donnait le bulletin de notes de nos enfants, on connaissait déjà ce qui était écrit, avant même de lire. Peut mieux faire. Vous connaissez, hein, n'est-ce pas? Peut mieux faire. Alors l'enfant avait 11 de moyenne, il peut mieux faire, oui, c'est sûr qu'il peut mieux faire. Alors au deuxième trimestre, il avait 12. Et vous savez ce qui était marqué? Peut mieux faire. Et l'enfant, dès son jeune âge, il est rabaissé. Au lieu de lui dire, mon fils, ma fille, tu as avancé, tu as progressé, c'est bien. C'est vrai qu'il faut que tu continues, mais c'est super. Eh ben non, on le rabaisse. On peut le rabaisser en lui disant, on fera rien de toi. C'est pas déjà arrivé, ça, de le dire, on fera rien de toi. Il est tellement en colère, tellement irritant parfois. Tu seras balayeur quand tu seras plus grand. Tu seras chômeur. Pareil, c'est un métier qui fonctionne bien en ce moment. Tu seras même SDF. Il y a des parents qui disent ça. On peut aussi irriter son enfant en le mettant en opposition avec son frère ou avec sa sœur. Parce que sa sœur, elle est du mieux, alors on fera rien de toi. Regarde ta sœur, elle est nettement meilleure. Regarde ton frère, il est meilleur. C'est dur, hein, parfois, d'être l'aîné dans la famille. En général, hein, on dit que les aînés sont plus... C'est plus difficile d'être aîné que d'être dernier dans la famille. Voilà, tu vois, là, il a essayé, moi, hein, je dis rien. Hein, mais c'est vrai qu'on le dit. On le pense parce que on a un peu l'habitude d'élever des enfants. On est aussi... quand on ne considère pas son enfant, on peut l'irriter. Et c'est, parfois, c'est sournois. On parle avec quelqu'un, on va parler de son fils ou de sa fille, de mon fils, ma fille, ça. Et puis, on ne se rend pas compte que l'enfant n'est pas bien loin et qu'il a entendu. Et on a des paroles qui sont parfois maladroites, qui sont données à autrui. Alors la question c'est, est-ce qu'on est fier de ses enfants? Est-ce qu'on est fier de ses enfants? Et puis il y a aussi, on peut y irriter en disant, j'ai noté ça aussi, en disant pourquoi? Ah, mais pourquoi? À quel âge c'est les pourquoi? Enfin, ceux qui ont des enfants plus jeunes doivent le savoir. Mais pourquoi? Pourquoi les poules n'ont pas de dents? Ah ben, ils n'ont pas de dents parce que... Alors des fois, on trouve vite la réponse, parce que le créateur n'a pas créé des poules avec des dents. Et au bout d'un moment, on est un peu irritant, on dit, parce que, tout simplement parce que. Puis quand les enfants sont petits, bon, ils se retournent, voilà, ils repartent dans l'autre sens, allez, ça va pas plus loin que ça. Mais alors, quand l'enfant est un peu plus grand, et qu'il vient vous voir en disant « Papa, comment on fait des bébés ?» Alors là, c'est plus délicat, bien sûr. Hein. Il faut être honnête. C'est plus délicat. Alors moi, je me disais, je me souviens, elle va demander à maman, elle va t'expliquer. Et le fils me dit, mais maman, elle m'a déjà dit de venir te voir pour te demander. On peut se détourner des sujets importants, graves même, en donnant de mauvais avis. On peut irriter son enfant. Puis on peut, alors je vais arrêter là, mais en ayant des avis contraires un petit peu sur tout, je vais arrêter là donc. Et je me souviens d'un. Vous savez, quand en 68 j'avais 15 ans. Et pour ceux qui ont étudié un petit peu l'histoire, enfin, ou qui se souviennent de cette époque-là, c'est une époque qui a changé complètement et la face de France et la face du monde aussi, et la face des gens. Je me souviens qu'on marquait sur les murs, il est interdit d'interdire. Ça voulait tout dire. Je suis libre, j'ai le droit de faire ce que je veux. Vous n'avez pas le droit de... Moi, je me souviens à cette époque-là, à 15 ans, mais j'étais né avant mon père. Je connaissais tellement de choses que lui ne connaissait pas. J'aurais révolutionné presque tout. Je me souviens d'un collègue qui avait un enfant, à cette époque-là. Et l'enfant, il devait avoir peut-être, je sais pas, 16 ans, 17 ans, je me souviens plus très bien. Mais il s'était, le père ne pouvait plus rien faire. Alors sans doute, il s'était passé des choses dans le foyer au cours des années précédentes. Mais il ne pouvait plus avoir accès à son fils. Et le fils, a mené sa vie, vous savez, c'est l'histoire du fils prodigue. Mais c'est le fils prodigue qui n'est pas revenu vers son père, et donc son père ne l'attendait pas quelque part. La drogue est arrivée. Et avec la drogue, l'overdose. Et avec l'overdose, la mort. Le père, je me souviens, c'était un collègue. Il avait perdu tout. Il avait tout, il avait qu'un fils unique. Il l'avait perdu. Mais il ne pouvait plus rien faire avec lui. On peut irriter son fils de différentes manières. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Et alors, il nous a dit quoi à la fin du verset ? Mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant. Voilà le rôle du père, le rôle des parents, bien sûr, mais le rôle du père aussi, c'est de élever. Le terme grec, c'est « et trépho ». Le terme de ce mot « élever », ça veut dire « nourrir jusqu'à la maturité ». Textuellement, c'est ce que ça veut dire. Et c'est employé deux fois dans l'Écriture, ici au verset 4, et là vous allez le regarder juste au-dessus, au verset 29 du chapitre 5, c'est le même mot, il est dit quoi ? « Car personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. » C'est le même mot qui est employé. Nourrir jusqu'à la maturité. Voilà le rôle des parents, mais le rôle du père aussi. Il y a, en fin de compte, le mot élevé, c'est le mot élévation. On doit élever nos enfants. On doit les préparer à la maturité. Alors, à quel âge ? 25 ans, 30 ans, peu importe. Mais on doit élever nos enfants. Je me souviens dans Deutéronome, chapitre 6, si vous notez, chapitre 6, verset 6, il est dit, tu inculqueras à tes enfants, même en voyage, tu leur inculqueras les promesses de Dieu. Psaume 78, les enfants et les petits-enfants, il est question aussi de les élever. Dans Genèse, au chapitre 18, le Seigneur rappelle à Abraham l'importance de ça. Je me souviens de André Adoul, qui était un missionnaire, un évangéliste. Je me souviendrai toujours de ce qu'il a dit. Il a dit, je suis en train de prendre des cours en ce moment, je suis devenu grand-père. Donc j'apprends à l'égard de mes petits-enfants, à leur apprendre en fin de compte, mais en gardant une certaine distance. Il y a les parents quand même qui sont là. Et André Adoul disait, mes enfants sont toujours mes enfants. Peut-être qu'ils avaient une trentaine d'années, je sais pas. S'ils ont envie de mettre des robinets en or chez eux, mais laissez-les faire. Peut-être qu'ils se rendront compte quelque temps après qu'un robinet low cost, dès qu'on ouvre le robinet, il y a autant d'eau qui coule qu'un robinet en or. Mais laissez-les faire. Par contre, si son robinet en or a plus d'importance que le Seigneur, alors là, reprenez-le. Qu'il ait 30 ans, qu'il ait 40 ans, dites-lui que c'est bien ce que tu fais, mais l'Éternel doit avoir la première place. Et à un moment, on laisse les enfants un petit peu à être aussi des parents. C'est ce que l'Écriture nous dit. Nous ne sommes pas responsables de nos enfants, mais nous sommes amenés à les instruire. Et je vais terminer par ça, en les instruisant selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Vous connaissez la parole de Dieu. Vous vous souvenez d'Élie, vous vous souvenez de Psaume, vous vous souvenez de Deutéronome, de ce que le Seigneur a dit. Rappelez-le à vos enfants, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands. Ce n'est pas à l'école du dimanche de faire le boulot. C'est aux parents. C'est au père, c'est à la mère aussi d'instruire l'enfant et au père de les élever. Alors, il faut qu'on arrête.
Oh là, oui,
il faut qu'on arrête. C'est la faute à la pendule qui fonctionne pas. Hein. Bon. Bonne fête, les pères. N'est-ce pas? C'est bien aujourd'hui. Hein. En tout cas, ça fait plaisir quand on vous souhaite la fête des pères. J'ai reçu ce matin un petit message de la part de mon fils qui a plus de 40 ans maintenant et qui me dit « Papa, bonne fête. » Alors, faut que je vous le dise parce que c'est trop... Pourtant, je l'ai lu, hein, c'est pas... Bonne fête, papa d'amour. Eh bien, c'est une bonne fête. Voilà. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à sa parole, et excusez-moi si j'ai pas pu aller plus en détail, en tout cas dans ce qui était donné.